Bonjour, bienvenue à l'émission Dans la mire climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. Je suis Naomi Laflamme, votre animatrice, et je suis en compagnie, comme toujours, de mes deux co-animatrices, Jeanne et Sarah-Jeanne.
Bonjour!
Donc, aujourd'hui, à l'émission, nous allons nous intéresser au traitement médiatique des changements climatiques. Donc, on va s'intéresser, par exemple, à ce en quoi consiste la couverture actuelle des questions environnementales, au rôle des médias dans la lutte climatique, mais aussi au défi de cette médiatisation des enjeux environnementaux et climatiques. Donc, pour en discuter aujourd'hui, nous accueillons avec nous à l'émission Monsieur Henri Assogba, professeur titulaire au département d'information et de communication à l'Université Laval. Bonjour, Monsieur Assogba.
Bonjour, Naomi.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci de l'honneur que vous me faites en m'invitant à votre micro.
Donc, vous êtes professeur, vous êtes aussi directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient, et vous êtes spécialisé aussi sur la médiatisation des questions environnementales.
Oui.
Donc, c'est pour ça aujourd'hui que vous êtes avec nous pour nous partager justement votre expérience et votre savoir sur la question. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous poser une question plus personnelle face à votre parcours académique et professionnel pour commencer. Donc, en fait, comme je viens juste de le dire, le traitement médiatique des thématiques environnementales et le journalisme environnemental font partie de vos intérêts de recherche. Et donc, d'abord, qu'est-ce qu'on entend là, selon vous, par la médiatisation des enjeux environnementaux et climatiques? Puis aussi, qu'est-ce qui vous a amené, durant votre parcours, à vous intéresser à cette thématique spécifique?
Oui. De manière simple, parler de la médiatisation, qu'est-ce que c'est et tout ça, donc des enjeux environnementaux et climatiques, on peut dire que c'est surtout donc de mettre, de faire entrer dans l'espace public les enjeux, on parle de la construction de problèmes publics et tout ça, donc c'est en utilisant tout le processus qu'il y a d'utilisation des médias pour parler de ces enjeux-là, mettre sur la place publique ces enjeux-là, donc en discuter, faire connaître ces problèmes-là. Donc, c'est tout ce processus qu'il y a derrière et toute la mécanique qu'il y a derrière avant que ces problèmes-là n'accèdent à la visibilité médiatique. Donc, c'est de ça qu'on parle en termes de médiatisation. Mais pour venir à la question de comment j'en suis arrivé là, ben, moi, comme je le dis souvent, j'ai un banal parcours atypique dans la mesure où c'est pas un parcours linéaire. J'ai d'abord été dans une première vie journaliste dans mon pays d'origine qui est le Bénin, en Afrique de l'Ouest. Et justement, donc, en tant que journaliste, je travaillais beaucoup au niveau donc de la salle de nouvelles et je me rendais compte que les questions qui étaient liées à l'environnement faisaient un peu figure de parents pauvres, on n'en parlait pas.
Okay.
Et même parfois, quand on venait voir le responsable, le rédacteur en chef, l'affectateur, pour dire « Ah, j'ai une idée de sujet et tout ça », je dis « Oui, mais ce sujet-là, c'est... non, ça ne va pas intéresser les gens ». On part de l'a priori que ça ne va pas intéresser les gens, ou bien il y a des sujets plus importants que ça. Donc, il y avait une sorte de frustration de ma part, d'autant plus que moi, j'avais un background, j'ai fait une maîtrise en géographie, aménagement du territoire.
Okay.
Donc, je suis sensible à ces questions-là et je voyais dans l'environnement qu'il y avait autour de moi, qu'il y avait des sujets, des sujets qui méritaient effectivement qu'on s'y intéresse, qu'on en parle, et que, ben, finalement, le média pour lequel je travaillais, et c'était vraiment la radio nationale, donc la radio de service public, un peu comme l'équivalent de Radio-Canada ici. Mais que mes chefs, mes supérieurs hiérarchiques ne trouvaient pas nécessairement donc utile donc dedans. Donc ça c'est souvent une lutte interne avant que ces sujets-là n'accèdent à ce n'est pas le faute de vouloir en parler, mais déjà convaincre son responsable pour qu'on en parle, c'est tout un défi. Donc ça a été un premier déclic à mon niveau. Et quand j'ai repris les études, parce que je suis retourné aux études et tout ça pour faire un master, d'abord en recherche et puis après en gestion de l'environnement, et puis après je me suis intéressé donc à la communication pour ne pas trop m'éloigner de mes premières amours. Donc ça m'a permis donc de dire donc si je dois faire une thèse, un doctorat, je m'intéresserai donc à chercher à savoir pourquoi ces sujets-là faisaient figure de parents pauvres, pourquoi on en parle peu, et si on en parle, les fois où on a décidé d'en parler, comment on en parle. parle? Mm-hmm. Est-ce que ça parle aux gens? Est-ce que le public auquel on s'adresse et tout ça, donc c'est des sujets qui leur parlent et tout ça. Donc ça a été un peu l'intérêt de recherche qui est demeuré un peu comme un fil conducteur tout au long donc de ma carrière et depuis que je suis dans le monde de la recherche.
Ok, merci. Vous nous dites en fait que la médiatisation de l'environnement faisait figure de parent pauvre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les enjeux climatiques et environnementaux sont traités de manière adéquate dans les médias? Est-ce qu'on en parle trop? Est-ce qu'on en parle encore pas assez? Est-ce que le traitement est fait d'une manière idéale ou c'est encore problématique, selon vous?
Non. Est-ce qu'on en parle de manière idéale? Je n'irai pas jusqu'à là. Mais ce que j'ai constaté fort heureusement et qui est intéressant, c'est que au moment où moi j'ai commencé ma thèse en 2005 et aujourd'hui, et on voit qu'il y a eu de manière fulgurante un accroissement de la conscience écologique au niveau mondial. Donc souvent je donne comme exemple, je pose souvent à mes étudiants, est-ce que vous connaissez qui c'est Seven Curtis, donc Suzuki? Beaucoup ne savent pas qui c'est. Quand je dis mais est-ce que vous savez qui c'est Greta Thunberg? Tout le monde dit oui, mais oui. Greta, Thunberg et tout ça, oui. Mais exactement, et au sommet de la Terre, au sommet de Rio qui s'est tenu en 1992 à Rio de Janeiro, au Brésil, il y avait effectivement cette Canadienne-là, Seven Suzuki, qui, même âge pratiquement que Greta Thunberg, a eu le même discours, mais ça n'avait pas eu d'écho. Okay. Elle était à la tribune des Nations Unies, donc elle a parlé, faisait partie de la délégation canadienne et tout ça, donc elle a parlé et tout ça. Donc le même discours que Greta Thunberg tient aujourd'hui, c'est un discours qui se tenait en 1992, mais qui n'a pas eu l'écho. Ça veut dire que l'époque a changé.
Oui,
on n'avait pas également les réseaux sociaux et tout ça. Donc, c'est juste une image pour dire, pour montrer un peu qu'effectivement, on en parle beaucoup aujourd'hui. De plus en plus, les médias s'intéressent à ces questions-là. Ça devient même un enjeu de positionnement par rapport à certains médias donc, qui disent, il y a un marché, il y a un public qui est sensible à ces questions-là. Donc, je me positionne par rapport à ça. Et on n'en parlait pas aussi à une certaine époque parce qu'il y avait peu de journalistes qui étaient spécialisé dans le domaine. Donc, il ne savait pas de quoi il est question.
Ouais.
Parler de ces enjeux-là, donc parfois, d'abord, il faut d'abord être au courant et comprendre de quoi il est question avant de pouvoir l'expliquer à d'autres et tout ça, donc à ceux qu'on s'adresse. Donc, oui, on en parle de plus en plus. C'est un sujet qui m'intéresse, donc j'aurais peut-être un biais en disant que j'aurais aimé qu'on en parle encore plus. Quand on veut faire encore une petite analyse beaucoup plus fine, on se rend compte que quand on parle des enjeux climatiques, des changements climatiques, on en parle plus que d'autres enjeux environnementaux. Et ceux qui s'intéressent à ça vont dire, mais les enjeux environnementaux ne se réduisent pas qu'au changement climatique. Donc, il y a effectivement, on en parle de plus en plus. Et après, toute la question, c'est... déjà, c'est un gain d'en parler de plus en plus, mais est-ce qu'on en parle de la meilleure manière?
Exactement.
Là, c'est l'autre question et tout ça. Donc, parce que c'est vrai, il y a des sujets, je peux donner un exemple, on sort complètement du champ. Quand on prend le conflit israélo-palestinien, on ne peut pas dire que ce n'est pas un sujet dont on ne parle pas dans les médias. Et on en parle, mais ce n'est pas pour autant que le conflit il est réglé. Donc oui, on en parle, on parle de plus en plus des changements climatiques, mais est-ce qu'on en parle bien? Est-ce que ça permet donc d'amener à des changements d'attitude au sein de la population? Ce n'est pas encore le cas. Donc c'est là toute la question. Oui, on en parle de plus en plus, mais par rapport à d'autres sujets environnementaux, ça occulte d'autres sujets environnementaux. Et que je vous parlais tantôt donc du sommet de la Terre qui s'est tenu en 1992. À ce sommet-là, il y a eu ce qu'on a appelé les trois conventions de Rio. Il y a la convention sur la lutte contre les changements climatiques. Il y a eu également la convention sur la diversité biologique. Il y a eu la convention sur la désertification. Donc, trois conventions de Rio. Donc, de ces trois conventions, on parle plus de la convention sur les changements climatiques. Donc, les COP, la conférence des parties et tout ça. Donc, chaque année, on en a et tout ça. Donc, oui, on en parle plus. Mais il y a effectivement d'autres conventions. Donc, la diversité biologique, c'est un enjeu important qu'on a estimé à l'époque. Et tout ça, la désertification, on en parle de moins en moins et tout ça. Donc c'est pour dire que oui, on en parle de plus en plus. Ceux qui s'intéressent à ces questions-là trouvent que oui, c'est déjà bien qu'on en parle. Le but, c'est pas... parce que l'autre aspect qui a en jeu également comme un dilemme pour ceux qui travaillent dans le domaine médiatique, c'est arriver à parler, à continuer à parler du même sujet sans lasser le public.
Exact. Ouais.
Donc, il y a ce défi-là, ce dilemme-là. Oui, on en parle, mais si on en parle trop, ça va lasser. Les gens vont dire, bon, on a déjà entendu parler de ça et tout ça. Bon, et puis, ça ne dit rien. Donc, c'est continuer à en parler, mais toujours de manière innovante pour pouvoir intéresser le public à qui on s'adresse.
Maintenant, est-ce que vous diriez que les médias et les journalistes aussi ont un rôle à jouer dans la lutte climatique, en fait?
Évidemment, oui. De mon point de vue, oui. Quand, dans le domaine médiatique, on parle de, surtout dans le domaine journalistique, on parle de la responsabilité sociale du journalisme. Oui, on a une responsabilité, mais vous faites bien de distinguer les médias et le journaliste. Okay. Parce que oui, il y a les médias, l'entreprise médiatique, qui n'est pas une entreprise comme les autres, on ne vend pas des boissons sucrées, donc c'est une entreprise, mais ça demeure quand même une entreprise.
Oui.
Et pour que l'entreprise soit viable, il y a un modèle économique qui doit être derrière. Okay. Et souvent, donc, le fait est que, bon, oui, on veut bien s'informer, mais de plus en plus, si le modèle, il est gratuit, souvent, on nous parle de la gratuité, mais rien n'est gratuit dans le monde. Si c'est gratuit, ça veut dire qu'en bout de ligne, quelqu'un l'a payé quelque part. Mm-hmm. Donc, s'il y a un modèle gratuit, peut-être que ben il y a des annonceurs, donc des gens qui ont intérêt à ce que. Et s'il y a des annonceurs qui ont une certaine influence par rapport à l'entreprise médiatique, donc peut-être que ils voudraient pas que l'entreprise médiatique se mêle de certaines affaires, de leurs affaires, qui pourraient donc, et ces affaires-là pourraient être des affaires qui sont des affaires environnementales ou d'autres et tout ça. Donc, ça va poser le problème souvent de ce qu'on a appelé la liberté de la salle de nouvelles par rapport donc à l'entreprise de presse, le modèle économique qu'il y a derrière. Si par exemple chez nous dans notre média on a de grosses entreprises dans le domaine par exemple automobile qui sont annonceurs et tout ça, donc est-ce qu'ils ont intérêt à ce que ben on démolisse ce milieu là en disant oui c'est ça fait c'est un gros poste dans la lutte contre les changements climatiques. Donc c'est des questions qui se posent et tout ça. Donc le modèle économique n'est pas anodin, mais ça n'empêche pas que, ben, au niveau des salles de nouvelles et tout ça, donc oui, effectivement, il y a également des défis par rapport au traitement de ces questions-là, parce que quand on parle de journalisme et puis les changements climatiques, on n'est pas dans la même temporalité. Le journalisme va parler de ce qui vient de se passer, l'actualité, l'immédiat. Les changements climatiques, on est beaucoup plus dans le temps long. On va, pour parler. Donc, souvent, on distingue, pour faire la distinction, on dit oui, la météo, c'est différent, par exemple, du climat. La météo, c'est le jour où on veut savoir, ben, avant de sortir le matin, j'aimerais bien savoir quel temps il fait pour pouvoir m'habiller en conséquence et tout ça. Oui, donc c'est immédiat. Mais il faut accumuler sur un certain nombre de décennies pour pouvoir dire, bon, là, on a le climat et tout ça, le climat change et tout ça. Donc, ça fait que c'est pas la même temporalité. Ça fait que, bon, oui, souvent, quand intéresser le public, quand on leur parle de quelque chose de ça va arriver de manière lointaine et tout ça, on a du mal à sensibiliser les gens par rapport à ça. D'autant plus que, bon, maintenant, ça change quand même. On se rend compte que de plus en plus, ce n'est plus si lointain que ça. On a des impacts qui sont visibles. Il y a des catastrophes, il y a des événements climatiques majeurs, météorologiques majeurs qui font que, ah, on fait des liens avec, il y a de plus en plus d'études probantes qui sont faites, d'études scientifiques qui démontrent ce lien-là. Donc ce n'est plus juste une vue de l'esprit ou bien de quelques journalistes que les emmerdeurs et tout ça, donc comment on les appelait, donc les emmerdeurs qui ne veulent pas laisser passer l'industrie faire son travail et tout ça. Donc on est allé au-delà de ça et tout ça. Donc,
Ça vous a permis de voir différentes manières de fonctionner, j'imagine aussi. Puis le fait que vous êtes originaire du Bénin, mais que vous avez vécu dans différents pays, vous a permis de voir la situation médiatique, le contexte d'un pays à l'autre. Puis en fait, on se demandait, est-ce que vous avez observé des grandes différences à travers le traitement médiatique des enjeux climatiques? On peut parler de la structure économique, tout comme le rôle des journalistes là, d'un contexte national à l'autre.
Oui. Ça c'est vrai, c'est un enjeu effectivement. Moi, le fait d'avoir bougé pas mal, je me définis un peu comme un citoyen du monde et d'avoir vécu dans différents contextes, ça m'a permis donc de voir que la réalité ne s'appréhende pas de la même manière. C'est toujours, il faut toujours contextualiser. Et dans les pays du Sud, déjà, ça dépend du régime qui est en place en sciences politiques. Vous le savez très bien. Quand c'est un régime dictatorial ou c'est un régime illibéral, libéral, on va se rendre compte que ben la liberté déjà d'expression, la liberté donc des médias et tout ça, donc elle est très encadrée. Il y a des sujets sur lesquels les journalistes ne peuvent pas investiguer. Et ça fait que parfois on se retrouve à avoir des situations assez ubuesques où les journalistes ne parlent pas des problèmes environnementaux qui sont locaux, que les gens vivent au quotidien, mais préfèrent relayer, par exemple, les dépêches d'agences de presse qui vont vous parler, par exemple, des enjeux environnementaux des pays du Nord. Donc, des choses qui sont vraiment lointaines, lointaines par rapport au vécu des populations et tout ça. Donc, parce que on veut pas parler des sujets locaux au risque de déranger les pouvoirs publics, les pouvoirs, parce que bon, c'est vrai, il y a les pouvoirs, on parle souvent, donc, du pouvoir exécutif des gouvernements, mais il n'y a pas que ces pouvoirs, il y a également les pouvoirs économiques. Ceux qui ont intérêt, donc, à ce que leur affaire prospère et tout ça, ils veulent pas que les journalistes viennent fouiner dans leurs affaires pour mettre à nu et tout ça. Donc, il y a beaucoup qui font du greenwashing, donc, montrer que, bon, c'est un sujet qui est vendeur et tout ça, donc, fait, donc, de la fausse représentation, dit qu'ils sont, pour l'environnement, alors que quand on commence à voir un peu comment ça fonctionne et tout ça, donc, ce n'est pas le cas. Donc, il y a eu de ces cas-là, on se rend compte que, les problèmes ne sont pas, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et même les fois où les journalistes sont un peu plus axés, utilisent leur liberté d'expression et veulent investiguer sur certains sujets, il y a un véritable enjeu d'accès à l'information.
Ouais.
Ça, c'est un autre problème. Donc, on dit oui, on vous laisse travailler, mais on vous donne pas l'information. Donc, quand vous n'avez pas accès à l'information, vous avez du mal à faire votre travail et tout ça. Donc, ça fait que ça, c'est l'un des aspects. Après, il y a des problèmes qui demeurent. Aussi qu'on soit dans les suds ou au nord, vous allez voir qu'il y a des problèmes qui demeurent. Souvent, quand on parle des enjeux environnementaux, la manière donc de problématiser, de cadrer le sujet, ça va être souvent, on va mettre en conflit l'environnement et puis l'économie. On va dire oui, ben les enjeux, on va dire oui, si on fait ça et tout ça, donc il faudrait penser quand même aux entreprises, les emplois, c'est tels les emplois qui sont en jeu. Donc souvent le cas actuel au Québec, on peut parler de l'entreprise Norwolf et tout ça, donc tout ce qui se passe et tout ça, donc les enjeux qu'il y a et tout ça. Donc et il faut des journalistes pour faire des enquêtes, quand on prend quelqu'un de comme Thomas Gerbet et tout ça, donc qui fait des enquêtes là-dessus. Et tout ça, donc qui met à nu les contradictions du gouvernement pour dire, bon, il y a un moment où on ne veut pas qu'on s'intéresse à ça et on fait appel à la science, mais dans d'autres cas, on ne veut pas faire appel à la science parce que ça nous arrange, parce qu'on va pouvoir accueillir une grande entreprise et tout ça, il y a des enjeux qui sont... Donc, souvent, c'est des choses qu'on retrouve aussi bien dans les pays du Sud qu'au Nord, mais effectivement, dans les pays du Sud, les enjeux qui sont beaucoup plus exacerbés, c'est l'accès à l'information.
Ouais. Okay,
excellent. Et le fait de ne pas pouvoir traiter de certains sujets qui sont locaux parce que ben pour plein de raisons il y a l'autocensure donc qui fait aussi ça, c'est des choses qui sont moins documentées dans la recherche parce que ben l'autocensure il faut pas aller, on peut pas aller faire la recherche pour sonder le cœur des hommes et tout ça, donc il y a des sujets mais que les gens s'interdisent de traiter parce qu'ils veulent pas avoir des soucis, ils veulent pas avoir des problèmes aussi bien leur famille que d'autres et tout ça. Donc quand on prend des organismes comme Reporters sans frontières, ils ont fait des monitoring au niveau mondial et se sont rendus compte que effectivement, dans les pays du Sud, où certains, pour certaines grosses multinationales, ça pose problème donc, de pouvoir investiguer sur certains sujets qui sont un peu donc, des zones de non-droit. On ne voudrait pas que les gens aillent mettre leur nez dedans et tout ça, donc mettre à jour donc, ces informations-là. Donc, effectivement, il y a des différences de traitement en fonction donc, de...
Il faut garder en tête aussi, exactement.
Puis, il y a donc des nombreux défis qui sont différents là, selon les divers contextes nationaux, comme vous venez de le mentionner. Donc, en fait, notre émission là, porte justement sur la justice climatique. Donc, je voudrais savoir si, selon vous, il existe un lien particulier entre la médiatisation là, des enjeux climatiques et environnementaux et la justice climatique, donc la justice sociale. Par exemple, la première question là, que je pourrais vous poser, c'est est-ce que la couverture médiatique des enjeux climatiques peut créer ou reproduire des inégalités sociales?
Je fais du pouce sur la question parce que effectivement ça contribue à reproduire les inégalités sociales et tout ça. Donc dans la mesure où parfois quand on se rend compte avec les groupes locaux, les gens qui sont déjà il y a un problème d'accès aux médias.
Mm-hmm.
Et parfois c'est des gens qui sont souvent mal armés. Mmh. Pour pouvoir intervenir dans ces médias-là. Donc parfois, le système est fait de telle sorte que leur parole peut être ridiculisée. Donc ils n'ont pas les codes, ils savent pas. Il y a parfois l'ignorance qui entre en ligne de compte. Mmh. Les gens ne savent pas. Donc déjà, beaucoup jouent là-dessus. Ils n'ont pas accès. Et les fois où on essaie donc de la participation est parfois on essaie donc de jouer là-dessus et tout ça. Donc, c'est une sorte de une participation de façade. Parce qu'on fait une mise en scène, on essaie de leur donner la parole. Et c'est des gens qui n'ont pas accès. Donc, ils sont un peu impressionnés par le décorum. Ils perdent leurs mots. Ils n'arrivent pas et on ne leur laisse pas le temps de s'exprimer et tout ça. Donc, il y a déjà ces aspects-là. Et puis, il y a le fait de ne pas avoir l'information. Donc, ils n'ont pas l'information. Et ça fait que ils ne savent pas de quoi il est question et tout ça. Donc, et on essaie donc de jouer sur leur ignorance parfois pour pouvoir leur faire vendre de n'importe quoi et tout ça. Donc ça reproduit effectivement les inégalités et les problèmes qui se posent et tout ça donc par rapport à ces différences. Donc, et c'est surtout la responsabilité du journaliste donc d'être sensible à ces questions-là et se dire bon d'accord je ne participe pas à la reproduction de ces schémas-là. Il faudrait que ça participe également des formats dont on dispose pour pouvoir traiter de ces sujets-là. Donc ça veut dire que on peut essayer donc d'aller dans ces milieux-là parfois et prendre plus de temps. Faire des enquêtes au long cours, permettre arriver à avoir la confiance des gens pour qu'ils vous disent les choses et tout ça, donc la manière de fonctionner. Et puis, faire des enquêtes qui permettent donc de donner l'heure juste et de ne pas reproduire des stéréotypes par rapport à ces populations-là. Donc, okay. c'est surtout des choses qu'il faut. Moi, quand vous parlez tout à l'heure des choses qui... les différents pays et les manières d'aborder différentes et tout ça. Bon, moi, originaire du Bénin, je viens ici, par exemple, au Québec, et je me rends compte que, par exemple, l'utilisation de l'eau. Il n'y a pas de facture d'eau. L'eau est gratuite.
Ouais.
Alors que chez moi, au Bénin et tout ça, l'eau, il y a une gestion parcimonieuse de l'eau. D'abord, l'eau n'est pas gratuite.
Okay.
Quand vous utilisez l'eau courante et tout ça, donc vous avez une facture à la fin, comme vous avez la facture d'électricité.
Ça change les habitudes,
ça change les habitudes par rapport à ça. Et puis, tout le monde n'a pas accès à cette eau-là. Donc, les moyens font que certains, donc, ceux qui sont dans des régions reculées n'ont pas accès à cette eau-là et tout ça. Donc, ça fait que, donc, la manière, donc, d'aborder, une fois qu'on a cette ressource-là, la manière dont on la gère, ce n'est pas pareil que, on n'a pas les mêmes enjeux pour dire, bon, d'accord, je voudrais avoir mon gazon qui soit vraiment nickel. Il faudrait qu'on arrose plusieurs fois par jour et tout ça. Donc, ce n'est pas le même enjeu. Donc, la gestion de cette ressource-là, par exemple. Donner un exemple, au moment où on a eu la crise en Ukraine et tout ça, et puis il y avait des enjeux par rapport à la fourniture d'électricité. Et on a vu tout le débat qu'il y a eu. On a dit, bon, on va réduire, on va avoir... certains ont même parlé de délestage, alors que c'est des choses que les gens vivent dans les Sud, c'est permanent, les délestages, et donc les coupures d'électricité et tout ça. Donc, ce n'est pas qu'ils ont choisi, mais ils le vivent. Ils sont contraints de le vivre. Donc, ils vivent de peu. Et c'est eux qui sont les premiers, par exemple. Donc, quand on parle de justice climatique et tout ça, quand on parle des îles et de tout ça là, donc c'est pas des... leur empreinte écologique, elle est minime par rapport à l'empreinte écologique des pays du Nord et tout ça qui sont développés et tout ça. Et puis c'est eux qui sont les premières victimes et tout ça. Donc c'est là où ça crée des enjeux. Donc faire plus de travail de terrain, d'en parler, et ça participe donc pour que ça ne on ne reproduise pas ces inégalités là. Donc ça peut être quelque chose, quand ce n'est pas utilisé à bon escient, ça peut reproduire. Mais quand on en est conscient et qu'on se donne les moyens donc de le faire, effectivement, on peut y contribuer, on peut réduire, ça peut participer donc à la réduction donc des injustices environnementales par rapport.
Peut-être une dernière question là, pour terminer. Rapidement, on parle beaucoup de liberté d'expression et d'importance là, de représenter la pureté des points de vue dans les médias. Et je me demandais, en fait, qu'est-ce que vous pensez de la place qu'on laisse au discours climato-sceptique ou au discours alternatif là, par rapport au changement climatique? Est-ce qu'on devrait leur laisser la place? Est-ce qu'on devrait plutôt ne pas leur donner vraiment la parole? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça me fait sourire parce que c'est un débat qu'il y a eu au niveau donc de la profession, et dans les premiers moments où ceux qui s'intéressent à ces questions-là, parce que dans le métier, dans la formation de journaliste, on nous inculque le fait que ben il faudrait donner l'information juste, la pluralité des opinions, essayer donc d'être équilibré dans le traitement de l'actualité. Et il y a eu une période où, il y a toute une période où les gens, quand chaque fois qu'ils donnaient la parole à quelqu'un qui alertait sur les changements climatiques, ils se disaient, il faut que je donne la parole à quelqu'un qui est contre, donc un climato-sceptique et tout ça. Donc, et ça faisait que c'était, ils avaient une visibilité disproportionnée par rapport à la réalité de ce qu'ils défendent, tout ça. La presse, la presse spécialisée dans ces domaines-là s'est rendu compte de ce hiatus-là, donc de cette fausse représentation, et on en est arrivé en fait maintenant que ben, de plus en plus il y a suffisamment d'études probantes qui montrent que on est dans un domaine où les changements climatiques effectivement ont participé, l'humain a une part importante dans les changements climatiques et on ne peut pas le nier et tout ça, donc et si quelqu'un doit venir pour le dire, il faudrait qu'il ait suffisamment d'études pour le démontrer tout ça, plutôt que de dire bon d'accord, si je donne la parole à telle, il faudrait que je donne. Ça, la profession elle-même elle s'en est rendue compte et a évolué par rapport à ça. L'autre aspect aussi, sur lequel on voit des changements, des modifications au niveau donc du traitement de ces questions-là, aussi bien climatiques que environnementaux, c'est on a beaucoup joué sur la peur. Sur le catastrophisme. Donc souvent quand on en parle sous un angle où c'est un peu l'apocalypse et tout ça. Donc de plus en plus on dit bon d'accord, ça peut participer à ce qu'on a appelé l'éco-anxiété. Les gens disent ben ils associent les journalistes aux mauvaises nouvelles. Donc ce sont des colporteurs de mauvaises nouvelles. Certains décident même de ne plus s'informer. Là, on en vient à des enjeux démocratiques parce que l'information, c'est la base. Il faut s'informer, il faut être informé pour pouvoir savoir si on va y arriver ou pas et tout ça. Donc, c'est de plus en plus maintenant, on dit, on va en parler. Il y a des manières, donc, des nouvelles formes de journalisme où on parle parfois de journalisme de solution.
Ouais.
On va angler beaucoup plus sur, une fois qu'on a dit que ça va pas, mais est-ce qu'il y a des gens quelque part sur la planète qui font des choses, qui participent donc de solutions par rapport à ça, donc
faire connaître
positivement. Ouais. Donc on va essayer donc de faire, on va essayer donc de mettre. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas parler de ce qui ne va pas. Non, on en parle, mais en même temps on offre au public des outils, des solutions qui marchent et en se méfiant bien entendu de ce qu'on appelle les FBI, donc les fausses bonnes idées.
Ok. Je me demandais.
On s'est demandé où ça allait.
C'est ça.
OK, ben c'est super. Justement, vous parliez du journalisme de solution, donc ça peut un peu contrer justement les fausses informations puis le climato-scepticisme dans la population.
Justement.
Donc, c'est maintenant ce qui conclut notre émission là, sur le traitement médiatique des changements climatiques. Donc, je vous remercie encore une fois, M. Henri Assogba, d'être venu nous parler. Ce fut vraiment une discussion enrichissante. Merci de nous avoir partagé votre expérience et votre savoir sur la question. Donc, je rappelle que vous êtes professeur titulaire au département d'information et de communication de l'Université Laval.
Merci.
Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Dans la mire climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. À bientôt!